Connaissez-vous cet homme ? J'attends. Non ? Non plus. Cet homme s'appelle Roland Garros. Alors le problème, et vous êtes tombé dedans, c'est qu'aujourd'hui, son nom, il est associé au tennis. À cause, évidemment, et on le voit, du célèbre tournoi. Mais Roland Garros n'était pas du tout un joueur de tennis. C'était un aviateur. Il était lieutenant-pilote lors de la première guerre de 14-18. Roland Garros, que vous voyez ici, est connu pour ses exploits en aviation. Et Roland Garros est l'inventeur d'une technique qui a permis de tirer au travers les hélices d'un avion de chasse. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le tennis ? Eh bien, le rapport, il est dû tout simplement à cause d'un de ses amis. Un de ses meilleurs amis qui est devenu le président du club du Stade français. Le Stade français qui, comme vous le savez, je pense, est une association sportive parisienne. Et en 1927, c'est lui qui a décidé, en hommage à son ami, de donner son nom au stade de tennis qui devait être construit pour accueillir à Paris les épreuves de la Coupe Davis. Et son meilleur ami, président du Stade français, a prononcé ces paroles : je ne sortirai pas un sou de mes caisses si on ne donne pas à ce stade le nom de mon ami Roland Garros. Autre question. Qui, d'après vous, a été le dernier vainqueur français de Roland Garros ? Exact. Yannick Noah. C'était en 1983. Il avait à cette époque 29 ans. Non, il y a 29 ans, pardon, puisque c'était en 83. Il y a maintenant 29 ans. Mais si vous dites aujourd'hui aux jeunes, Yannick Noah est un tennisman, ils ne vous croiront pas. Pour eux, Yannick Noah, c'est un chanteur. C'est pas un joueur de tennis. Bref, aujourd'hui, on vous dit Roland Garros, vous pensez tennis. Si on vous dit Yannick Noah, la plupart penseront chanteur. Ce qu'on associe au nom est parfois étonnant. Et cette association d'idées est, à mon avis, toujours très partielle. Pour savoir que Roland Garros était un aviateur, il faut un tout petit peu s'intéresser à sa vie. Et pour connaître son visage, encore plus. Pour savoir que Yannick Noah a été champion de tennis et qu'il a remporté Roland Garros il y a 29 ans en 1983, il faut être soit, comme moi, vieux, soit il faut s'intéresser à sa vie. Ça me rappelle un tout petit peu cet épisode de l'Évangile où Jésus interroge ses disciples. Jésus veut savoir ce que les gens pensent de lui. Alors je vous propose d'écouter ce texte. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe et il demande à ses disciples, pour les gens, qui suis-je? Alors ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus leur dit, pour vous, qui suis-je? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es un homme heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus, on croit le connaître. Et les réponses dans la foule sont les réponses de ceux qui avaient entendu parler de Jésus, ou qui l'avaient vu peut-être de loin, qui avaient entendu un de ses enseignements, voire peut-être même assisté à un miracle. Bref, les gens qui avaient une connaissance partielle de Jésus croyaient le connaître. Et croyant le connaître, ils le comparaient à ceux qu'ils connaissaient. Du coup, la comparaison parfois est assez étonnante. Pour certains contemporains de Jésus, Jésus, c'est Jean-Baptiste. Ou alors, Jésus, c'est un prophète, plus ancien, comme Élie, comme Jérémie. Ils ont identifié Jésus comme un prophète, alors ils le rapprochent avec des figures connues. C'est un procédé qui est classique. Et tout le monde le fait. Ah oui, je le connais, c'est comme un tel ou un tel. Jésus, je connais, nous ont dit les habitants de Brie-Comte-Robert. Jésus, je connais, c'est le premier communiste. Jésus, je connais, c'est le premier révolutionnaire. Quelqu'un m'a dit, Jésus, je connais, c'est le premier hippie. Jésus, c'est Gandhi, c'est Che Guevara, c'est qui vous le voulez. Parce que Jésus, quand on ne le connaît pas, ou quand on a simplement entendu parler de lui, on le perçoit un tout petit peu comme on voudrait qu'il soit. Et les réponses de la foule sont sans doute aussi un peu le reflet de leur attente. Je rappelle que quand Jésus pose cette question, on était dans un contexte d'occupation. Les Romains occupaient le pays. Et l'attente d'un libérateur était forte. Et les prophètes qui sont cités ici sont connus pour leur non-conformisme et même pour leur opposition parfois au pouvoir qui était en place. Mais en faisant cela, on s'expose à toutes les récupérations religieuses. philosophique ou politique. Jésus ne fait pas exception. Jésus a été récupéré par tous les courants philosophiques, récupéré par tous les courants religieux possibles et imaginables. Tour à tour, on a fait de lui un pacifiste, un révolutionnaire, un progressiste, un réactionniste, un marxiste, un capitaliste et même un hippie. Notre chanteur Johnny Hallyday n'a-t-il pas chanté en son nom, Jésus, en son temps, pardon, Jésus-Christ est un hippie. Et ce matin, je me pose la question, et nous, ce que la foule dise de Jésus n'est pas faux. Il est bien, à sa manière, un prophète, mais c'est très incomplet. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment qui est Jésus. Et je me pose la question de savoir quelle est la connaissance que nous avons ce matin, nous, de Jésus. Sur quoi notre connaissance se fonde-t-elle? Dans quelle mesure n'est-elle pas marquée par des idées reçues? Notre vision de Jésus-Christ n'est-elle pas déformée par nos attentes? On ne le perçoit pas forcément tel qu'il est, mais plutôt comme nous voudrions qu'il soit. La réponse de l'apôtre Pierre montre qu'il connaît Jésus. Il a compris qui est vraiment Jésus. Tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la question que je me pose, c'est mais comment en est-il arrivé là? Comment connaître vraiment Jésus? Jésus, pour le connaître, il faut le suivre. Pierre, nous le savons, a accompagné Jésus depuis un certain temps. Il a répondu à son appel, il l'a entendu enseigner à nombreuses reprises, il l'a vu accomplir des miracles et il l'a vu vivre au quotidien. Et il a compris qu'il était plus qu'un prophète. Même si l'affirmation « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant », lui est venu de Dieu. Et Jésus le lui rappelle. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Mais ce n'est pas la chair et le sang, autrement dit, ce n'est pas toi qui viens de le dire. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a fait connaître cela. » Du coup, Jésus nous déplace sur un autre terrain de connaissance, qui est le terrain de la foi. Le connaître par la foi. Cette dernière précision de Jésus est, à mon avis, très importante. Pour le connaître vraiment et pour reconnaître qui il est, il faut que cela nous soit révélé par Dieu. C'est donc une question de foi. C'est évident pour chacun de nous ce matin. Jésus-Christ n'est plus sur cette terre. On ne peut le voir. Mais même au temps des disciples, au temps où on pouvait voir Jésus, où on pouvait l'entendre directement, il fallait apprendre à le connaître par la foi. Combien ont été témoins des miracles accomplis par Jésus? Combien ont entendu son enseignement sans pour autant reconnaître qui il était vraiment? Pour savoir qui est vraiment Jésus, il faut prendre le temps de le connaître. Comme Pierre, il faut répondre à son appel, marcher avec lui, l'écouter. Et pour nous, c'est pareil. C'est en marchant avec Jésus que nous apprendrons à le connaître. Non seulement à travers ce que les évangiles nous en disent, mais aussi dans une relation de foi. On est ici bien au-delà de l'affirmation théologique, on est ici bien au-delà de la confession de foi. On peut très bien déclarer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et ne pas le connaître pour autant. L'enjeu est moins dans la réponse à la question « Qui est Jésus ?» que dans celle qui dirait « Qui est Jésus-Christ pour moi ?» Que représente-t-il dans ma vie ? Quelle place a-t-il dans ma vie ? Je conclus. Roland Garros et Jésus-Christ, même combat. La plupart du temps, on croit les connaître, mais en général, on n'a qu'une connaissance partielle. Alors, c'est vrai que ce n'est pas trop grave pour Roland Garros. L'enjeu, par contre, est bien plus grand pour Jésus. Ne trouvons-nous pas dans l'Évangile, selon Jean, ces paroles, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. L'enjeu est important, mes amis. L'enjeu, c'est la vie éternelle. Connaître Jésus-Christ, le reconnaître comme le Messie, le Fils de Dieu vivant par la foi, apprendre à le connaître, marcher avec lui, voilà ce qu'est la vie éternelle. Et ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de le connaître. J'espère pour chacun et pour tous que nous arriverons un jour à le connaître, que nous ferons vraiment sa connaissance pour ne plus jamais le quitter. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Te remercions pour ce qu'elle représente pour chacun de nous. Nous voulons te dire, Seigneur, notre reconnaissance. Et nous voulons davantage faire ta connaissance. Et notre prière, Seigneur, c'est que tu viennes régner en nous, que tu fasses ta demeure en nous, pour que notre connaissance de Jésus-Christ puisse grandir et que nous puissions t'aimer comme tu le mérites et te donner la place qui te revient, cette place qui est la place du roi dans notre cœur. Merci Seigneur pour ta présence et pour ta vie en Jésus-Christ. Amen.